Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan dans notre débat ce soir sur la situation en Syrie. Alors que la guerre entre aujourd'hui dans sa 7e année, les États-Unis renforcent leur engagement au sol. Le Washington Post le confirme d'ailleurs à l'instant, il y a quelques minutes, 1000 hommes supplémentaires dans le nord du pays, dans l'optique officiellement de l'assaut contre la ville de Raqqa, qui se prépare. Raqqa, bastion syrien du groupe État islamique, faut-il le rappeler. Un signe supplémentaire de la fragmentation d'un conflit, peut-être faut-il d'ailleurs dire désormais des conflits syriens, car sur le terrain on croise aujourd'hui des forces loyalistes, des rebelles, des Kurdes, des djihadistes, des Iraniens, des Libanais, des Russes, des Américains, des Français, des Jordaniens et n'oublions pas dans les airs des représentants de la coalition internationale, au total 68 pays. Et les ennemis sur un terrain sont parfois des alliés sur un autre. Exemple, États-Unis et Russie se sont en quelque sorte alliés contre la Turquie, leur allié pourtant respectif, pour l'empêcher de marcher sur Manbij, une ville du nord syrien très stratégique. On va longuement y revenir dans ce débat. Alors Syrie, la multiplication des acteurs, coup de pouce ou coup de massue pour la résolution du conflit à long terme, c'est notre sujet du jour. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Général Dominique Trinquant, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Alain Rodier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche au CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'un livre sorti il y a quelques semaines aux éditions Ballant, livre qui s'intitule « Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre ». Alors, je voudrais commencer avec vous, général Trinquant. Les États-Unis, c'était pour l'instant contenté de forces spéciales, en tout cas officiellement, il faut peut-être mettre beaucoup d'officiellement dans ce que nous disons ce soir, opérant contre l'EI pour épauler leurs alliés syriens, qui sont notamment kurdes, mais pas seulement. Alors, ce déploiement de Marines, dont on parle depuis quelques jours, qui vont, nous dit-on, assurer un appui d'artillerie, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, tout simplement ?
Alors ça veut dire trois choses. La première chose, c'est qu'il y a un changement d'administration aux États-Unis, personne ne l'ignore, et que donc il y a un changement de posture en Syrie. Le candidat Trump l'avait annoncé. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la bataille de Mossoul, qui
donc
a
en
lieu
Irak, cette
en
fois.
Irak, oui, en Irak effectivement, où là les Américains sont très présents depuis le départ, se déroule depuis plusieurs mois. Elle est dans un tournant important puisque maintenant c'est le cœur de Mossoul, ouest, qui est attaqué, et donc les Américains commencent à se préoccuper de Raqqa, qui est l'autre capitale, mais cette fois-ci en Syrie, de l'État islamique. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense qu'on y reviendra, mais c'est très complexe. Il y a un imbroglio, j'allais dire, d'intervenants en Syrie du Nord, qui fait que il faut des arbitres. Il faut des arbitres entre les Kurdes, les Turcs, les forces de défense syrienne, les forces de Bachar al-Assad, les Russes qui sont bien sûr présents également, les Iraniens, le Hezbollah. Et dans cette partie nord, autour de Raqqa, Manbij, en fait, toute cette, il y a plusieurs opérations entre bouclier de l'Euphrate par les Turcs et colère de l'Euphrate par les forces de défense syriennes. Il faut des arbitres et les Américains jouent un peu ce rôle-là.
Et alors, quand vous dites, pardonnez-moi, un arbitre, ça veut dire quoi concrètement aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il y a des combattants d'un côté kurde, de l'autre qui sont turcs, qui ont le même objectif et au milieu, il faut des Américains que ça n'explose pas?
Voilà, c'est ce qu'on appelle des forces d'interposition. Alors, ils ne portent pas le casque bleu. Ça ferait pas plaisir aux Américains d'ailleurs si on leur disait qu'ils portaient le casque bleu, mais ils remplissent un peu la mission de casque bleu. Ce sont des forces d'interposition entre deux forces pour éviter qu'elles ne se tirent dessus.
Alors quand on nous dit, c'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'on présente ça dans la presse américaine comme des combattants qui vont avoir de l'artillerie, et en fait vous nous dites au contraire c'est des sortes de casques bleus.
Non, alors il y a deux choses, hein, faut bien voir. Ce sont plutôt des forces spéciales qui font l'interposition, alors que les Marines dont on parle, c'est les corps expéditionnaires de Marines qui sont faits pour ça, hein, se déploient avec de l'artillerie, c'est plus pour faire pression sur Raqqa. Raqqa, qui est la capitale donc de l'État islamique en Syrie, qui est encerclée depuis assez longtemps, hein, mais en fait, il n'y a pas eu de pression mise sur Raqqa. Et le fait de faire venir de l'artillerie marque une volonté de faire pression sur le siège ou la prise de Raqqa, comme on veut, où on pense qu'il y a encore 3 à 4 000 djihadistes qui sont dans la ville.
Alors, Alain Rodier, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de nous expliquer le général Dominique Trinquant ? Finalement, si les Américains alourdissent leur présence aujourd'hui en Syrie, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des arbitres. Vous reprendriez ce terme ?
Ah oui, tout à fait. Le général a tout à fait raison. Bon, cela dit, pour que nos auditeurs comprennent bien l'affaire, il y a deux opérations. D'un côté, il y a Manbij al-Bad, qui se trouve à l'ouest, au nord-ouest de la Syrie, et puis il y a la prise de Raqqa. Ces deux opérations totalement différentes. Dans ces deux opérations, les Américains mettent en avant les FDS, les Forces démocratiques syriennes, qui sont constituées majoritairement de Kurdes. Bon, les Américains prétendent, bon, ils montent comme d'habitude, comme des arracheurs dedans, que les Kurdes ne sont plus majoritaires, mais ils sont majoritaires dans ces forces. Et les Turcs ne le supportent pas. Ne le supportent pas parce que pour les Turcs, le problème, c'est le problème kurde. Ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un État indépendant au nord de la Syrie, le Rojava en particulier. Donc c'est pour ça qu'ils ont déclenché cette opération bouclier de l'Euphrate qui coupe le Rojava en deux. Donc maintenant on se retrouve avec une situation absolument dantesque, je dirais, avec les Turcs qui appuient quelques mouvements qui leur sont favorables, mouvements syriens, qui veulent progresser vers Manbij. Et à Manbij, effectivement, c'est les forces du FDS soutenues par les Américains qui sont présentes. C'est pour ça que les Américains ont déployé des forces pour que les Turcs leur tirent pas dessus, en fin de compte. Et entre les deux, les FDS ont appelé les forces syriennes à venir faire interposition. Les forces syriennes qui ont été accompagnées par les Russes. Donc à l'heure actuelle, nous avons, pour résumer, d'ouest en est, les Turcs et quelques mouvements rebelles, les forces syriennes et les Russes, puis les Kurdes et les Américains. Mais là, le moindre incident, la moindre étincelle peut éventuellement dégénérer. Bon, les Américains veulent déclencher ensuite une offensive sur Raqqa, offensive qui n'aura pas lieu dans les semaines à venir, parce que de toute façon, ils veulent lancer les Kurdes sur cette ville. Ils n'en ont ni les moyens, ni la volonté, parce que les Kurdes, Raqqa, ça les intéresse pas. C'est pas une zone kurde.
Et parce que peut-être que pour l'instant on concentre aussi les efforts sur Mossoul. Je crois déjà que le général Trinquant veut vous répondre sur cette notion d'étincelle peut-être qui pourrait dégénérer.
Sur le point, d'abord un point intéressant. La semaine dernière avait lieu une réunion des chefs d'état-major.
Alors,
et qui étaient présents ? Les Turcs, les Américains et les Russes. On constatera que les Turcs, bien sûr, sont frontaliers de cette zone, mais aucun des combattants, ni les Kurdes, ni les Syriens, qu'ils soient FDS, qu'ils soient du gouvernement de Bachar al-Assad, etc. Donc on voit bien que les combats qui ont lieu en Syrie aujourd'hui, la coordination, j'en viens avec parfois des rôles d'arbitre, mais aussi parfois d'autres rôles, mais la coordination est faite en fait par des gens qui sont extérieurs. Et les seuls qui sont vraiment partie prenante de l'affaire, ce sont les Turcs, bien sûr, puisqu'ils sont sur la frontière. On sait bien aussi que le président Poutine a rencontré il n'y a pas longtemps le président Erdogan, donc il y a une grosse coordination qui s'est installée entre Turcs et Russes, et que les Américains, qui étaient assez absents de la Syrie jusqu'à maintenant, ou avec des forces spéciales de façon très discrète, maintenant s'investissent sur ce théâtre. Est-ce que c'est l'effet de la nouvelle administration ? Parce que le président Trump a été très clair
là-dessus. Ce serait pas l'effet direct. En tout cas, la première annonce qui remonte à la semaine dernière des 400 hommes supplémentaires, on nous disait, ça n'a rien à voir, c'est la conséquence de décisions prises par Barack Obama. C'est pas votre avis ?
Non, c'est faux. Je veux dire, si le président Trump n'a pas envie d'appliquer une décision prise par le président Obama, il le dira. Donc c'est une décision prise par l'administration. Le président Trump lui-même ou l'administration, certes, mais enfin entériné. Et je rappelle que dans ses discours préélectoraux, il a été très très ferme sur l'action lourde qu'il entreprendrait contre l'État islamique. Donc je pense que là, il y a peut-être une inexactitude, même si la planification, on sait, prend du temps.
Alors, Je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que nous disiez tout à l'heure Alain Rodier sur la notion d'étincelle. Vous nous disiez ils sont à quelques centaines de mètres, ça pourrait exploser. Est-ce que ça veut dire quoi comme risque concrètement? Si jamais ils se battent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on risque?
Il y a eu une étincelle il y a plusieurs mois. Je le rappelle, un avion russe a été descendu par les Turcs. Ça aurait pu être catastrophique. Ceci a été géré de façon intelligente, j'allais dire, par les Russes. Donc, mais une étincelle est toujours possible dans ce type de conflit. Il est évident que il y a eu aussi d'autres incidents. Je rappelle que il y a des frappes aériennes américaines qui ont frappé des forces du gouvernement de Bachar al-Assad avec les Russes qui étaient juste à côté. Donc, il y a déjà eu plusieurs incidents comme ça. Donc, je pense que ce type d'incident peut se produire, mais je pense que les coordinations, il y a des téléphones rouges qui ont été mis en place en particulier, entre Russes et Américains par exemple, sont faits pour non pas empêcher les étincelles. Est-ce qu'on peut les empêcher complètement? Je n'en suis pas sûr, mais empêcher les conséquences des étincelles.
Et alors, ça, c'est bien ce que j'allais important. Vous dire, parce que la question c'est quand même aussi, alors vous nous dites finalement les Russes et les Américains veulent s'imposer comme des arbitres sur le terrain pour éviter que les conséquences des éventuelles étincelles ne soient trop importantes, mais est-ce que les troupes américaines et les troupes russes ont autorité sur les autres acteurs sur le terrain syrien aujourd'hui? Est-ce que c'est bien vu à la Rodier?
Non, c'est très difficile, parce qu'on a entendu parler de différences d'appréciation entre les Russes, par exemple, et les alliés iraniens. Bon, pour revenir sur l'avion russe qui a été abattu, les Russes ont répondu d'une façon très simple. Ils ont fait abattre un hélicoptère turc par le PKK. Donc, en gros, deux tués d'un côté, deux tués de l'autre, la balle au centre. Donc, voilà comment réagissent les Russes, c'est assez classique. Bon, cela dit, je pense que les Américains, là, vont attendre maintenant le référendum du 16 avril
en Turquie, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui des raisons qui ont trait aux Pays-Bas.
Ça va être extrêmement important, le résultat de ce référendum qui doit donner les pleins pouvoirs, en gros, au président Erdogan.
Qu'on peut le dire, puisqu'il deviendrait président, il l'est déjà,
il est déjà
premier ministre et président du parti.
Ça,
donc il cumulerait trois casquettes.
J'arrive pas à prononcer le mot, donc il aura les pleins pouvoirs.
Le sultan.
Et voilà, donc ça sera extrêmement important à ce moment-là pour les Américains, parce que le problème pour les Américains, c'est pas tellement les Russes, là, c'est les alliés turcs. Parce que s'ils fâchent les alliés turcs, eh bien ils vont fermer la base d'Incirlik.
Base, est-ce que vous pouvez rappeler en deux mots à quel point elle est stratégique?
Elle se trouve à Adana, donc elle est extrêmement pratique pour aller bombarder la Syrie et l'Irak. On est beaucoup plus proche, donc ça donne des facilités absolument extraordinaires, et ça serait une perte extraordinaire pour l'armée américaine. Mais d'un autre côté, s'ils lâchent les Kurdes, les Kurdes seront lâchés une énième fois, je dirais. Donc, ils vont pouvoir en vouloir aux Américains, et donc se retrancher sur leur idée première, c'est-à-dire de créer un Rojava, c'est-à-dire un État kurde, point à la ligne, sans avoir de velléité d'aller attaquer Raqqa. C'est pour ça que je dis, de toute façon, Raqqa ne sera pas pris demain, parce que personne ne va attaquer Raqqa demain, parce qu'on ne sait pas si ce sont des Turcs ou si ce sont des Kurdes qui vont y aller. C'est les Américains qui choisiront au dernier moment, mais pour le moment, le choix n'est pas fait jusqu'au 16 avril.
Je pense que pour l'instant, ça sera bien sûr ni les Kurdes ni les Turcs, sachant que le Bachar al-Assad, lui, a clairement exprimé que c'était son objectif. Et que donc, il cherche à avoir, bien sûr, l'appui des Russes pour cela, et la connivence des Américains avec des accords locaux avec les forces démocratiques syriennes. Le gouvernement de Bachar al-Assad a fait des accords locaux avec les forces démocratiques syriennes. Et pour attaquer Raqqa.
C'est là qu'on voit que c'est complètement fou. Puisque finalement, cette grève, cette guerre, elle avait commencé, c'était le régime contre les rebelles syriens. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'allier ponctuellement, évidemment, pour lutter contre des ennemis.
Ce ne sont pas contre les rebelles syriens. Les Kurdes n'ont jamais, jamais été opposés au régime de Bachar el-Assad.
Ils jouent leur carte politique, c'est ce que vous nous disiez.
Donc, les Kurdes ne sont pas à considérer comme étant dans l'opposition à Bachar el-Assad.
Nous parlions des FDS, des forces de défense syrienne.
C'est en gros la même chose.
Les forces de défense syriennes ont des accords avec le gouvernement de Bachar el-Assad. Ils n'ont jamais été ennemis, mais maintenant ils ont des accords.
Voilà.
Donc ça augmente un peu l'amplitude, si vous voulez.
Tout à fait.
Et alors, juste sur l'autorité de ceux qui prétendent devenir des arbitres, donc les Américains et les Russes, comment ça se passe sur le terrain?
Là, c'est comme sur un ring, hein, c'est le plus fort. Si vous voulez, quand vous avez la puissance qu'ont les Américains ou qu'ont les Russes sur la zone, le gouvernement de Bachar al-Assad est bien obligé de passer un peu par les fausses codines de ce que leur disent les Russes. Sinon, il n'est pas capable de le faire. Il y a un acteur dont on ne parle pas du tout et qui est pourtant très présent, c'est l'Iran et le Hezbollah. Je rappelle que les forces au sol...
Fondamentaux dans la bataille d'Alep, notamment.
Bien sûr. Les forces au sol, ça a été essentiellement le Hezbollah et des Iraniens qui sont très présents. La garde rapprochée de Bachar al-Assad, c'est l'Iran. Donc on n'en parle pas beaucoup. Mais ils sont très présents et la coordination avec les Russes est extrêmement importante. Il faudrait rappeler que tout ceci se passe pendant qu'à Astana se tient une réunion pour essayer de maintenir un cessez-le-feu qui n'existe pas, mais enfin pour essayer de mettre en place des choses très très tactiques, hein, vraiment, et pour préparer normalement une négociation à Genève. Personne n'y croit en ce moment parce qu'au milieu de la bataille, on ne va pas discuter de la fin de la guerre.
Alors, est-ce que justement, un peu en miroir de ce qui ne se passe pas, si on peut le dire comme ça, à Astana, finalement, la réunion de la semaine prochaine du 22 mars aux États-Unis, je crois, avec les 68 pays qui forment la coalition et qui est destinée, cette réunion, à mieux s'organiser sur le terrain, c'est finalement là que ça va se jouer, Alain Rodier?
De la blague.
Vous y croyez pas du tout? Absolument. C'est de l'affichage politique pour essaie de se coordonner.
Ça permet à certaines délégations de se faire payer des hôtels 5 étoiles. Bon, c'est connu, hein, l'opposition syrienne résiste très bien dans les hôtels 5 étoiles à l'étranger. Donc, et dans notre débat, on oublie tout de même un petit peu Daesh là-dedans. On n'en parle plus. Or, Daesh n'est pas mort. Daesh existe toujours. Daesh assiège Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, c'est une ville extrêmement importante. On n'en parle absolument pas.
Qui est aux confins du désert, donc à l'est de la Syrie.
Oui, non, mais Deir ez-Zor, c'est pas le désert, c'est du pétrole. C'est donc, à l'heure actuelle, Daesh est toujours vivant. Et on a tendance à oublier dans tous ces combats intellectuels entre Turcs, Kurdes, Américains, Russes, etc., que Daesh existe toujours là-bas. Raqqa, c'est toujours leur capitale. Deir ez-Zor, c'est leur capitale économique et financière.
Et ça va être d'autant plus vrai que Mossoul, ils sont en train de perdre du terrain.
Et Deir ez-Zor, c'est drôle que l'on n'en parle pas plus, c'est tout de même une ville, c'est le Dien Bien Phu, syriens depuis des années. Ils ont coupé l'aéroport de la ville. À l'heure actuelle, les gens vivent d'une façon absolument... c'est phénoménal.
Général Dominique Racon.
Oui, ma conviction profonde est que Mossoul, ça prendra du temps, mais ça tombera. Raqqa, ça prendra du temps, mais ça tombera. Particularité de Raqqa, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des brigades internationales, si vous voulez, par rapport à Mossoul, où ce sont des combattants du CRU, hein, qui sont de Mossoul. Donc
Il y avait beaucoup dit qu'il y avait notamment des Français à Mossoul.
Oui, bien sûr. À Mossoul, pardon. Oui, à Mossoul. Mais Raqqa, vous avez des Tchétchènes, vous avez d'où l'intérêt des Russes d'ailleurs, hein, de combattre là-bas. Donc ces deux villes, capitale, si j'ose dire, irakienne et capitale syrienne de Daesh, finiront par tomber. Mais souvenons-nous que Daesh, l'État islamique, était une nouveauté dans les mouvements terroristes puisqu'il mettait en place un État. Donc territorialement, c'était ça la nouveauté par rapport à Al-Qaïda. Mais là, ce qui est en train de se faire, ce qu'on apprend dans les réseaux de Daesh, c'est ce qu'ils appellent le retour au désert. C'est-à-dire, après la perte de ces villes, ils retournent au désert et ils pratiquent une autre forme de confrontation qui est la guérilla. Et aujourd'hui, des bombes explosent. Alors on a vu aujourd'hui, c'est probablement pas Daesh d'ailleurs, à Damas, c'est probablement Fatah al-Sham, mais bon, peu importe, à Bagdad... Et en Irak, alors que Bagdad n'est plus entouré par Daesh.
Et donc on dit d'ailleurs qu'Abou Bakr al-Baghdadi, le calife autoproclamé, aurait quitté Mossoul pour aller dans la vallée de l'Euphrate, effectivement.
C'est ça, le retour au désert, c'est le mythe, si vous voulez.
Oui, mais...
Alors, je suis désolée, on va devoir s'arrêter là, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup Alain Rodier, directeur de recherche du CF2R. CF2R, auteur de Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre, qui est paru en février chez Ballon. Merci à vous, général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Merci également à Valentin Vaner et à Marjorie Breton.